Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, nous dit le prophète Isaïe. Chers frères et sœurs, si nous sommes ici, c'est que nous cherchons Dieu. Sinon, nous ne serions pas là. Nous serions dans nos maisons. Mais on peut se demander, est-ce que vraiment je cherche Dieu, ou plutôt, quel Dieu je cherche? Car il y a plusieurs manières de chercher le Christ. On peut le chercher comme Marie-Madeleine, au matin de Pâques. Que cherche-t-elle? Elle cherche avec ardeur, avec véhémence, mais elle cherche le corps mort de celui qu'elle a aimé, de celui finalement qui ne peut plus rien pour elle, sinon qu'aviver sa tristesse. Et je me dis, parfois nous sommes semblables à Marie-Madeleine, certes nous cherchons, mais recherchons-nous un Dieu vivant? Nous disons peut-être que Dieu existe, c'est vrai qu'il fait partie d'une espèce de système qu'on peut admettre, mais est-ce que finalement parfois on n'est pas convaincu de son impuissance, surtout quand on regarde le monde qui nous entoure? Est-ce que notre foi est toujours là, ou plutôt est-ce que notre foi s'accompagne de l'espérance? C'est-à-dire l'espérance que Dieu agit, qu'il agit dans l'histoire, qu'il peut réveiller notre monde qui s'en va vers les ténèbres, qu'il peut vraiment changer le cours des choses. Moi-même, ou peut-être vous aussi, parfois, je pense à Dieu comme un grand médecin au chevet d'un grand malade, auprès de qui on a essayé tous les traitements, et puis ces traitements s'avèrent vains à un moment donné, et il faut les abandonner. On débranche les appareils parce que voilà, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi ce sentiment parfois qui peut habiter notre cœur? Eh bien, c'est qu'on s'est laissé fasciner par la force du mal, par cette généralisation du mal autour de nous, et on ne peut plus en détacher son regard. C'est exactement la situation du peuple juif qui s'est laissé déporter et à qui s'adresse Isaïe dans la première lecture. Sa grande tentation, c'est de se laisser fasciner par la puissance de Babylone qui a produit tant de dégâts à Jérusalem, tant de souffrances dans le peuple. Et du coup, il y a une vénération malsaine de cette puissance. Et finalement, au chapitre 48, dans ce même livre d'Isaïe, dont on lit la première lecture aujourd'hui, Sion, c'est-à-dire le peuple de Juifs, élève cette plainte: « Le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. » Mais que dit Isaïe? Et avec quelle dureté ne le dit-il pas? Ce sont des pensées méchantes et perverses. La perversité n'est pas forcément immédiatement là où on la croit. La perversité ne serait-ce pas cette forme de laisser-aller, cet « à quoi bon », cette manière de laisser l'espérance au fond de nous-mêmes se corroder, s'altérer, se détruire? Tout dans notre monde nous y pousse, mais que produit cette espérance mise à mal, cette espérance abîmée? Eh bien, elle va produire un monde froid, un monde sans affection, comme disait saint Paul des païens. Un monde où, pour se sentir exister, il faut entrer en compétition. Il faut être meilleur que l'autre. Ou plutôt, de manière peut-être plus réaliste, il faut que l'autre soit pire que moi, soit moins heureux. C'est le monde de l'envie. ce péché capital qu'on apprenait au catéchisme avec les 6 autres, qui est de se réjouir du mal de l'autre et s'attrister de son bien. C'est très actuel. Si vous voyez sur les écrans de cinéma aujourd'hui, il y a un film avec Florence Foresti qui vient de sortir, qui s'appelle « Le bonheur des uns » et vous complétez la suite. C'est donc quelque chose qui est de tout temps ancré au plus profond de nous-mêmes. Quand on a été aux études aussi, on a lu les vers de Lucrèce, ce vieux poète latin qui disait qu'il est doux, quand on est sur la terre ferme, de voir les pauvres matelots se débattre avec la tempête, tandis qu'on se sait soi-même préservé de ses dangers. Magnifique vers, mais terrible constat du cœur humain, qui peut aller jusqu'à cette perversité de se réjouir du mal de l'autre. Voyons simplement comment nous-mêmes nous réagissons quand, à l'inverse, peut-être qu'on s'attriste du bien de l'autre, quand un de nos amis ou un de nos collègues connaît une promotion professionnelle, quand notre confrère du séminaire devient évêque et que nous, on n'est que simple prêtre. Bien sûr, cela parfois passe en glissant et on n'y s'y attarde pas, il ne faut pas se faire plus mauvais qu'on est, mais ce mal pousse des racines très profondes en nous. Sinon, le Seigneur ne nous aurait pas donné cette parabole. Parce que c'est cela, la parabole des ouvriers de la 11e heure. Pourquoi les ouvriers se rebiffent ceux de la première heure? Ils se rebiffent non pas qu'ils veuillent davantage, ils ont reçu leur denier, tout est en ordre, mais ils se rebiffent parce qu'ils veulent que les autres aient moins. Ce n'est pas normal qu'ils aient un denier eux aussi. Ils sont dans la comparaison, ils sont dans la compétition. Et quel est le remède à cette jalousie, à cette envie? Simplement, n'oublions pas que l'envie, c'est le premier péché qui apparaît dans la Genèse. Parce que c'est le péché du diable. Le diable entre dans le monde parce qu'il est envieux du bonheur d'Adam et Ève. Il est envieux de leur amitié avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il les tente. Donc, quelle est cette manière de lutter contre l'envie, contre cette jalousie? Eh bien, d'abord, regarder et accepter ce que Dieu nous donne. Le recevoir. Qu'a donné le maître à ses ouvriers? Il a donné un denier. C'est un code dans la Bible, ce denier. Parce que le denier, toujours, porte une effigie, une figure. Quand Dieu donne un denier, il donne sa propre effigie. Il inscrit dans notre cœur son image. Il nous fait porter sa trace. Nous avons en lui sa présence. Que peut-il donner de plus? Et il ne peut donner moins. C'est pour cela que tous reçoivent ce denier, la plénitude de la présence de Dieu. Mais voilà, bien souvent, nous ne savons pas recevoir. Si je puis dire, ces ouvriers de la première heure, ils ont loupé une étape, celle de la réception. De même qu'Adam et Ève ont loupé une étape, celle de recevoir. Ils n'ont pas conscience du don que Dieu leur a fait. Et c'est pour ça qu'ils vont voir ailleurs. Le don de Dieu, cette amitié qu'Adam et Ève peuvent avoir avec Dieu, ça passe sur eux comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Karol Wojtyła, quand il prêchait au pape Paul VI, dans ce magnifique texte, Le signe de contradiction, disait ceci: l'Esprit Saint, c'est certes celui qui nous aide à nous donner, mais c'est d'abord celui qui nous aide à recevoir. Cet esprit, disait-il, restaure en l'homme le sentiment détruit dès le début, le sentiment d'avoir tout reçu. Comme c'est important que nous demeurions dans cet accueil, que le don pénètre nos cœurs, qu'il les transforme. Et vous connaissez certainement cette très belle prière écrite par un homme handicapé et qu'on a retrouvé dans un institut de rééducation à New York. Cet homme dont l'esprit est tout à l'inverse de ses ouvriers de la première heure et qui disait ceci: « J'avais demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible afin que j'apprenne humblement à obéir. J'avais demandé la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'avais demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur afin que je puisse aimer tous mes frères. J'avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie. J'ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis parmi tous les hommes le plus richement comblé. » Oui, il nous faut l'esprit, il nous faut l'épreuve parfois pour que nous sachions recevoir le don de Dieu. Et puis autre chose, une dernière chose, il nous faut la charité. Ces ouvriers de la première heure, ils n'ont pas l'amour dans leur cœur parce qu'ils sont incapables de se réjouir du bien de l'autre. Voilà, quand la charité commence à s'éveiller en nous, eh bien, leurs talents deviennent les autres, les nôtres. Leur bonheur devient le nôtre, car la charité met tout en commun. Alors demandons à la Vierge Marie qu'elle nous entraîne sur ce chemin, qu'elle nous entraîne à redevenir ses enfants, unis dans un même amour et une même reconnaissance auprès de notre Père.